FBI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, allez, c'est décidé. Je vous épargne aujourd'hui la liste des dernières mauvaises nouvelles environnementales. Si vous écoutez RFI, de toute façon, vous êtes bien informés et vous savez que nous, les humains, nous sommes face à un sacré problème. Le climat de notre planète se réchauffe à cause de nos activités et l'habitabilité de notre planète se réduit. Alors, quelles solutions avons-nous ? Miser sur la gouvernance internationale pour décarboner nos économies, cesser d'épuiser les ressources naturelles et s'inscrire dans le respect des limites planétaires. Oui, enfin honnêtement, les conclusions des conférences des Nations Unies sur la biodiversité, le climat ou le plastique qui ont eu lieu ces dernières semaines ne donnent pas vraiment envie de tout miser sur cette option. Nous pouvons aussi partir du principe que l'homme, après avoir déréglé le climat, pourrait le contrôler. Finalement, la créativité humaine est infinie, son inventivité inépuisable, donc misons tout sur les technologies comme la captation du carbone ou la gestion du rayonnement solaire et tout ira bien. Et ce n'est pas si fou d'y croire, hein. La géo-ingénierie, née dans les années 70, fascine, autant qu'elle effraie et elle est en plein développement. Le troisième choix, c'est la sobriété. Accepter que déréguler les équilibres naturels, c'est trop dangereux et que cela nous incite avec humilité à nous adapter aux limites planétaires au lieu de les repousser. Mais est-ce que nous sommes capables d'être raisonnables ? Pas si sûr. Alors faut-il choisir entre ces options ou les mettre toutes sur la table ? Après cette émission et grâce à nos invités, vous allez peut-être réussir à vous faire votre propre idée.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Rémi Noyon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le Nouvel Obs, chef adjoint de la rubrique Idées, où vous travaillez sur les questions environnementales et vous venez de publier avec Marine de Guglielmo.
J'ai aussi du mal à le dire parfois.
Merci Weber. Le grand retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques aux éditions Les Liens qui Libèrent. Avec nous dans ce studio aussi, Yamina Saeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-algérienne, je le dis pour nos auditeurs du Sud, c'est important, docteur en ingénierie énergétique et vous avez participé au 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans lequel vous avez réussi à imposer le mot sobriété, c'était une bataille, vous allez nous en parler, et vous venez de lancer le laboratoire mondial de la sobriété. Et avec nous en ligne depuis Riga, en Lettonie, Xavier Land, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la London, vous êtes professeur à la London School of Economics de Riga et vous venez de publier le Que sais-je, qui est donc ces petits livres qui font le point sur la question. Que sais-je s'appelle La géo-ingénierie aux éditions PUF. Alors je voudrais vous demander d'abord à tous les trois pour débuter cette émission si vous êtes d'accord avec ce que je disais en introduction, qui est que nous sommes à l'heure des choix pour l'avenir de l'humanité. Yamina Saeb.
Ah oui, complètement. Parce que les émissions ne font qu'augmenter. Il y a déjà 6 sur les 9 limites planétaires qu'on a dépassées. Et plus on dépasse les limites, plus on rentre dans une zone d'incertitude. Et donc, il y a des décisions fortes politiques qu'il faut prendre. Et malheureusement, on l'a vu, toutes les COP, toutes les réunions, tous les forums internationaux, c'est échec après échec après échec.
Ou un des succès, mais tellement petit qu'on n'ose pas parler de succès. Rémi Noyon.
Oui, oui, à tel point que des gens ressentent une forme de panique. Hein, et la panique, ce n'est pas la meilleure conseillère, etc. Donc l'idée aussi de découragement, de dire, bon, en fait, on n'y arrivera jamais. Peut-être que finalement, toutes ces solutions technologiques sont à explorer. Et c'est ça qu'on essaie justement de montrer dans le livre et de freiner. C'est cette idée qu'en fait, on pourrait être fasciné par ces espèces de grands projets technologiques que vous avez évoqués et du coup en rabattre sur nos objectifs de réduction d'émissions. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de tension entre tous ces pôles et c'est ça qu'on va essayer d'explorer, je pense.
Oui, absolument. Xavier Land.
Oui, juste une précision, je suis professeur à la Stockholm School of Economics, pas à la London.
Pardon, excusez-moi, c'est un abus de langage.
Il n'y a pas pardon. De problème du tout, c'est juste pour mon patron. Si
vous avez raison, il faut vraiment être régulier avec la personne qui fournit votre salaire.
Oui,
alors,
tout à fait.
Au-delà de ce... Oui, dites-moi ce que vous en pensez.
Oui, je partage ce constat. Il y a un grand débat qui se pointe à l'horizon, qui est celui de la géo-ingénierie. Un débat très certainement qu'on n'aurait jamais dû avoir, parce qu'on aurait dû décarboner bien avant. dès les années au moins 90. On aurait dû prendre des mesures pour développer les énergies vertes. Et là, on se retrouve un peu dans, je pense que c'est Rémi qui l'a mentionné, dans un sentiment d'urgence, avec toutes sortes de solutions qui apparaissent, plus ou moins bonnes, en général plutôt mauvaises, et avec très peu de recherche, en fait, sur ces stratégies. Et elles avancent, ce qui est le problème. Ce que je pointe dans mon livre, c'est qu'elles avancent masquées, c'est-à-dire il y a une dépossession démocratique à l'égard de ces technologies, de leur mise en application, et on risque de se les voir imposer sur les populations.
Alors j'ai effleuré vraiment ce qui étaient ces technologies en introduction, mais on va commencer par les définir. Qu'est-ce que vous diriez, Rémi Noyon, pour définir la géo-ingénierie ?
Alors il y a une définition standard qui est en gros tous les projets d'intervention à large échelle sur le système climatique pour contrer le réchauffement anthropique. Donc on voit dans cette définition, il y a deux grands points importants. Il y a l'intentionnalité, à savoir on veut agir sur le réchauffement climatique, le contrer. Et puis il y a l'échelle, c'est-à-dire que si vous plantez deux arbres dans votre jardin pour capter du carbone, c'est pas de la géo-ingénierie. Par contre, si vous faites un programme d'afforestation massive avec tous les problèmes qu'on connaît sur les terres agricoles et la concurrence, etc., là vous êtes plutôt dans le registre de la géo-ingénierie. Et après peut-être que Xavier développera, mais on distingue généralement deux grandes familles. Donc la géo-ingénierie solaire et la géo-ingénierie carbone. L'une vise en fait à agir sur le bilan radiatif. Donc on va essayer d'empêcher une partie de l'énergie solaire d'entrer dans le système de façon à refroidir artificiellement le climat, sans avoir forcément à toucher aux concentrations en CO2 dans l'atmosphère. Il y a une sous-catégorie de cette technologie qui vise à permettre à plus de rayonnement terrestre de sortir du système, et qui est peu explorée. Et l'autre catégorie, c'est la géo-ingénierie carbone, alors que maintenant on appelle plutôt élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. Il y a toute une bataille autour des termes, hein, on pourrait y revenir, sur le terme géo-ingénierie étant connoté péjorativement. Les gens qui travaillent dans ces secteurs tendent à ne pas l'utiliser, évidemment. Donc on parle plutôt de retrait du CO2 atmosphérique, d'élimination du CO2 atmosphérique. Et là, c'est tout ce qui va consister à capter du CO2, à en retirer du CO2 déjà accumulé dans l'atmosphère, avec deux grandes pistes, soit en amplifiant des phénomènes naturels, par exemple les puits de carbone terrestres ou océaniques.
Soit... Alors les puits de carbone, ça veut dire qu'il y a des écosystèmes naturels comme les forêts, par exemple, ou l'océan qui absorbent
déjà
le carbone,
CO2.
Et donc on amplifie ce phénomène naturel.
L'espoir étant d'amplifier ça, avec des technologies dont on pourra parler après. Et puis l'autre grande veine, ce qu'on appelle, pour le coup, vraiment de la pure technologie, donc soit avec des espèces d'aspirateurs à carbone, mais qui eux, on en parlera aussi, je pense, sont confrontés à un problème d'efficacité. Pour l'instant, c'est très très peu efficace et ça consomme de l'énergie. Or, si cette énergie est carbonée, c'est un peu idiot. Vous émettez en essayant de retirer. Et puis ce qu'on appelle la bioénergie avec captage et stockage du carbone, qui est un phénomène un peu plus compliqué, c'est l'idée qu'en gros, on va prendre les plantes vont pousser par photosynthèse, capter du CO2. Cette biomasse, ces plantes vont être utilisées pour faire de l'énergie. Et au moment où on va faire cette énergie, on va retirer le CO2 qui normalement a été réémis dans l'atmosphère et on va le séquestrer dans les sols ou l'utiliser pour faire du béton, par exemple. Voilà. Donc c'est un peu le panorama.
Xavier Land, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette définition ?
C'est une très bonne définition, en fait. Rémi a couvert la définition générale, qui est celle de la Royal Society, celle qui donnait dans son rapport de 2009. C'est vrai qu'il y a ces deux grandes technologies. Donc, pour que les auditrices et les auditeurs comprennent bien, ce qu'on essaie de faire avec la géo-ingénierie, ce qu'on essaierait de faire, c'est de changer le forçage radiatif. C'est-à-dire le montant d'énergie, si vous voulez, qui s'accumule dans l'atmosphère. Et si vous prenez une analogie avec une serre de jardin, ce que vous essayez de faire, c'est que vous savez que ce forçage radiatif dépend de deux variables principalement. C'est l'énergie entrante, c'est le rayonnement solaire. Et c'est en fait les gaz à effet de serre qui maintiennent cette énergie dans l'atmosphère. Donc, au final, ce que l'extraction du dioxyde de carbone essaie de faire, c'est vraiment de réduire... elle essaie de faire deux choses, en fait. Elle essaie de compenser pour les émissions actuelles, mais il y a aussi l'objectif, quand vous lisez la recherche, de diminuer les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Parce qu'on sait que si on arrêtait demain les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, le changement climatique se poursuivrait au moins pendant plusieurs décennies, du fait de l'accumulation des émissions passées. Et donc, en fait, cette première technologie, l'extraction du carbone, du CO2, de l'atmosphère, essaye à la fois de compenser les émissions actuelles, mais aussi de rattraper le retard dans la mitigation, le retard dans la diminution, la réduction des émissions à effet de serre, qui est le résultat de deux siècles d'industrialisation forcée basée sur les énergies fossiles. Et je voudrais rajouter une dernière chose, une dernière distinction, parce que Rémi a fait une très bonne distinction pour ce qui est l'extraction du dioxyde de carbone. Pour ce qui est la gestion du rayonnement solaire, vous avez, comme pour la première famille de technologies, toutes sortes de méthodes d'intervention qui, des fois, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui sont balancées dans ce panier, ce qui fait que beaucoup de chercheurs refusent maintenant le label de géo-ingénierie. Mais dans la gestion du rayonnement solaire, vous avez autant des interventions de surface, comme le blanchiment des toits ou des surfaces urbaines, ou le blanchiment des cultures, ce qui pourrait apporter, d'après les études, des refroidissements jusqu'à 1 degré. Et vous avez aussi des interventions beaucoup plus ambitieuses qui ont lieu dans la troposphère, cette couche qui est jusqu'à la stratosphère. La troposphère, c'est, vous avez des interventions pour éclaircir les nuages, pour amoindrir les cirrus. Mais les interventions les plus problématiques pour la gestion du rayonnement solaire, celles qui attirent le plus, à juste titre, les critiques, c'est l'injection d'aérosols de particules dans la stratosphère et la pose de miroirs spatiaux.
Voilà, et tout ça n'est pas uniquement du fantasme. Il commence à y avoir des réalisations concrètes, comme la plus grande installation de capture de carbone au monde. Ça s'appelle Mammoth, exploitée par la société suisse Climeworks et qui a débuté ses opérations en Islande en mai dernier.
De la capture de quelques milligrammes de CO2 en laboratoire en 2009 à l'extraction et au stockage de milliers de tonnes de CO2 depuis 2021, nous nous sommes toujours concentrés sur la plus haute qualité et la technologie de pointe pour créer le plus grand impact possible. Aujourd'hui, nous repoussons encore plus loin les limites du possible. Il s'agit de Mammoth, notre deuxième usine de captage et de stockage direct de l'air, la plus grande au monde, qui nous rapproche encore un peu plus de notre objectif de reprendre le contrôle de notre avenir climatique en éliminant des mégatonnes de CO2 en 2030 et une gigatonne en 2050.
Nous aurions presque envie de mettre la main sur le cœur dans le studio. Alors c'est évidemment un extrait d'une vidéo promotionnelle de ce projet Mammoth qui fonctionne, je précise, avec l'énergie géothermique islandaise. Et cette installation peut retirer annuellement 36 000 tonnes de CO2 de l'atmosphère. C'est l'équivalent des émissions à peu près de 7 800 voitures. Que pensez-vous de cette installation, Yamina Saeb?
Eh bien, il va encore plus loin dans le mensonge. Cela fait 20 ans qu'il nous raconte ça. Et cela fait 20 ans que ça ne fonctionne pas, qu'il demande des subventions publiques pour faire fonctionner ça. Parce que tout ça, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est des subventions publiques. C'est de l'argent public qui va là-bas. C'est du gâchis, quoi. Et ça ne fonctionne pas, mais ils sont très bons en promotion et ils croient en leur mensonge. En fait.
Alors là, on est loin de la sobriété. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, à votre tour, parce qu'en plus, vous avez lu, je crois, plus de 1000 recherches scientifiques pour parvenir à faire une définition de la sobriété qui n'existait pas. C'est une information en soi, ça, quand même.
En fait, la sobriété, c'est pas un concept nouveau, contrairement à ce qu'eux nous proposent. Donc, ça remonte pour nous. On peut retrouver ça dans la civilisation grecque. Et en vérité, dans toutes les civilisations, on retrouve de la sobriété. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est d'utiliser le concept de la sobriété dans le cadre de la question de la durabilité ou de la soutenabilité de la planète. Et la sobriété, c'est un principe en sociologie, c'est un principe d'organisation de la société. Et en sciences politiques, c'est dans quel type de société on veut vivre. Donc en fait, c'est un principe démocratique à la base. Et ce qu'on apprend de la philosophie politique aussi, c'est que la sobriété, c'est l'une des théories de justice et elle est basée sur l'équité. Alors ça peut un peu nous perturber nous parce que notre devise républicaine c'est l'égalité. L'équité, il y a une grande différence entre les deux, c'est que l'équité elle permet de faire un rattrapage en fonction du lieu où on est né, etc. Et lorsque vous intégrez la sobriété, première chose dont vous vous rendez compte, c'est que notre objectif de neutralité carbone c'est un mensonge. Ça, c'est la première chose. En fait, il ne peut pas se faire. Parce que le budget carbone, il faut imaginer un gâteau. Et on a déjà mangé plus des trois quarts de ce gâteau-là. Il reste moins d'un quart qu'on doit se partager tous. Et notre objectif de neutralité carbone ne prend pas en compte le fait qu'il ne reste qu'un quart. En fait, on a fait un objectif pour 2050 comme si la planète n'avait pas de limite, quoi. Alors que si on prenait en compte la limite planétaire, eh ben, l'Union européenne, l'Union des 27, devrait être neutre en carbone en 2030. Notre objectif est pour 2050.
Ça va être compliqué.
Voilà. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les émissions qu'on a prévues, en fait, on est en train de planifier des émissions, toutes les émissions qu'on est en train de planifier entre 2030 et 2050,
Elles sont en trop.
Elles sont en trop. Il n'y a pas de place pour ces émissions-là. Et ça veut dire aussi qu'on ne laisse pas les pays, on laisse aucune chance aux pays en développement.
Voilà, alors que eux réclament évidemment un droit au développement, donc leur part du gâteau, c'est le cas de le dire.
Et c'est pas juste les pays en développement. En fait, c'est l'espérance de vie de nos enfants que l'on réduit. Aujourd'hui, je pense que le vrai message, c'est de dire que chaque gramme de CO2 qu'on envoie dans l'air, cela correspond, je n'ai pas le calcul, mais cela correspond à une réduction de l'espérance de vie de nos enfants. Et peut-être qu'avec ça, les dirigeants vont se bouger.
Eh oui, si seulement. Alors, géo-ingénierie ou sobriété, hein, les deux options comportent des risques. Et d'ailleurs, faut-il réellement choisir ? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, place à la musique sur RFI avec le collectif afro-londonien Owini Sigoma Band et leur titre « Wires ». C'était Wires du collectif afro-londonien Owini Sigoma Band sur RFI.
There is no planet B. C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah 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 blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050. Blah blah blah. Net zero. Blah blah blah. Climate neutral. Blah blah blah.
C'est Greta ça?
C'est Greta, absolument, Yamina Saeb, Greta Thunberg, vous avez reconnu. Et dans cette émission, nous essayons, nous, de ne pas trop faire de blablabla. Nous parlons tout simplement de l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Faut-il miser sur la sobriété ou au contraire sur la technologie pour nous garantir un avenir désirable ? Alors, vous le savez, nous, les humains, nous aimons les histoires et les films de science-fiction façonnent nos imaginaires. Il y en a plein, d'ailleurs, qui mettent en avant des techniques de manipulation du climat comme le film américain Geostorm, sorti en 2017.
Tout le monde était prévenu, mais personne n'a écouté. La hausse des températures a modifié les courants océaniques et les calottes glaciaires ont fondu. Ils ont appelé ça des phénomènes climatiques extrêmes. Ils ne savaient pas ce que voulait dire extrême. Des ouragans, des tornades, des inondations et des sécheresses ont provoqué une vague de destruction sur toute la planète. Il était clair qu'une nation ne pouvait pas résoudre le problème toute seule. Les pays du monde entier se sont unis. Des scientifiques de 17 pays ont travaillé sans relâche. Ils ont trouvé un moyen de neutraliser les tempêtes, grâce à un réseau de milliers de satellites, chacun utilisant des contre-mesures pour agir sur les éléments climatiques de base. La chaleur, la pression et l'eau.
Et le scénario du film, eh bien, c'est que ces satellites, à un moment, ne fonctionnent plus. Un designer doit travailler main dans la main avec son frère pour sauver le monde d'une terrible tempête. Bon, c'est un film américain, alors évidemment, ça se termine bien. Mais dans la réalité, est-ce que les apprentis sorciers de la géo-ingénierie ne font pas courir des risques multiples à l'humanité ? Xavier Land, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de risque ? Est-ce que, au-delà de ce film Geostorm, qui bon, bah, fait réfléchir évidemment, il y a quand même le risque que toutes ces technologies se développent et nous échappent ?
Oui, ça c'est un risque parmi d'autres. Et pour revenir en fait à la notion même de risque, bon, on sait qu'avec le changement climatique et a fortiori avec la géo-ingénierie, il y a les risques qu'on connaît, qu'on arrive à identifier, pour lesquels, contre lesquels il faut se prémunir, ou qui nous permettent en fait de déterminer si une action est appropriée ou pas. Mais il y a la notion d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a tous ces événements adverses qu'on n'arrive pas à prévoir, on ne sait même pas qu'ils existent, ou alors leur fréquence dans le passé a été tellement faible qu'on a du mal à calculer leur probabilité.
Alors quand vous parlez des risques connus, vous pensez à quoi ?
Pour la géo-ingénierie ?
Oui.
Pour les risques connus, par exemple, vous avez le risque pour les technologies d'extraction du dioxyde de carbone. Ce sont plus des risques sociaux, mais qu'elles soient incapables de compenser un dépassement du budget carbone. C'est-à-dire qu'on sait que beaucoup de gouvernements, en fait, espèrent pouvoir s'appuyer sur les techniques d'extraction du dioxyde de carbone pour pouvoir retirer du carbone les émissions en surplus qu'ils auront fait dans le futur ou qu'ils ont permis dans le futur. C'est ce que Yamina mentionnait, en fait.
Mais ça entretient l'inaction.
Ça entretient l'inaction. Et le risque, c'est vraiment... À nouveau, Yamina a pointé du doigt, a mis le doigt sur un problème de justice intergénérationnelle qui est central. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que les risques ne sont pas limités au déploiement de la géo-ingénierie au moment T. Quand on parle de changement climatique, de politique du climat, ou quand on parle de géo-ingénierie, en fait, ce dont on discute, c'est un transfert, une externalisation des risques dans le temps. C'est-à-dire que la sobriété ou la mitigation, l'atténuation, la réduction forcée, drastique des émissions de gaz à effet de serre impose un coût présent pour des bénéfices futurs, pour nos enfants, nos petits-enfants. Tandis que la géo-ingénierie a tendance à pousser en fait les coûts sur les générations futures, au profit de générations présentes qui ont du coup, parce qu'elles ont le sentiment de pouvoir se permettre d'émettre plus de CO2, peuvent conserver leur mode de vie, leur confort, leurs émissions non nécessaires, etc.
Et avec le risque, Rémi Noyon, d'arriver à ce qu'on appelle un choc terminal au bout du compte, hein. Vous en parlez dans votre livre.
Oui, tout à fait. La notion de choc terminal, elle est souvent mise en avant comme critique de la géo-ingénierie solaire. Donc effectivement, en fait, l'idée est assez simple. Si vous commencez à mettre du soufre, qui est l'aérosol le plus étudié, donc en fait, on diffuserait du soufre dans la stratosphère, il s'oxyde, ça fait de l'acide sulfurique, ça bloque une partie du rayonnement solaire entrant. Si vous faites ça, vous, évidemment, et que vous ne baissez pas vos émissions carbonées, vous êtes obligé d'augmenter les doses, entre guillemets. Donc les effets averses, les effets de bord augmentent également. Si à un moment, vous êtes obligé d'arrêter, parce qu'en fait, il y a un conflit, ça devient compliqué.
Parce qu'il n'y a plus assez de ressources naturelles pour alimenter ces technologies, par exemple.
La ressource en soufre, a priori, elle n'est pas limitée là-dessus, mais si par exemple, il y a un conflit...
Il faut envoyer les avions.
Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, en fait, le soufre, il ne reste pas comme ça pendant des décennies. Il finit par retomber, et donc il faut constamment... En fait, renouveler ce qu'on appelle ces injections d'aérosol dans la stratosphère. Exactement. Si vous faites ça et que vous arrêtez brutalement, en fait, c'est un peu comme si vous ouvrez la porte d'un four en plein fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vos taux de concentration dans l'atmosphère sont toujours très élevés. Vous enlevez le voile solaire et boum, la température augmente. Or, on sait qu'au-delà du réchauffement, c'est la vitesse du réchauffement qui est dangereuse pour nos sociétés. Alors, les géo-ingénieurs vous disent, bah oui, mais attendez, il n'y a aucune raison qu'on arrête brutalement ce voile, il y a des backups possibles, il y a des tas de technologies dont on dépend, qu'on réussit à entretenir pendant des décennies sans qu'il y ait de problème de maintenance, etc. Et par ailleurs, on pourrait juste mettre un tout petit peu de soufre, ce qui permet de le conditionner à une décarbonation, ce qui permettrait de ne pas avoir des quantités gigantesques qui créeraient un choc terminal important. Donc en fait, cette notion même, elle est discutée au sein de la recherche, mais effectivement, c'est un des gros risques de la géo-ingénierie.
Et puis Yamina Saeb, on connaît bien, par exemple, la notion d'effet rebond, qui est qu'en effet, si on peut continuer à émettre et qu'on nous donne une marge de manœuvre, évidemment qu'on va l'utiliser, donc ça risque d'être pire que tout.
En fait, on n'a pas le choix. La question du changement climatique, elle est liée à nos émissions de carbone et de gaz à effet de serre, dont le carbone est le principal gaz. Et pour limiter, parce qu'on est dans une situation de damage control, hein. On n'est pas dans la situation, on ne va pas revenir aux températures qu'il y avait avant l'ère industrielle. Ça, on oublie, ce n'est pas pour nous. Ce n'est même pas pour nos enfants ou nos arrière-petits-enfants, nous qui sommes ici. Et donc, en fait, on est dans la situation où il faut limiter les dégâts. Et donc, pour limiter les dégâts, on doit baisser nos émissions drastiquement. On n'a pas d'autre choix, et en particulier baisser les émissions drastiquement, et en particulier dans les pays de l'OCDE, qui sont en vérité ceux qui ont causé ce problème-là, parce que ce sont les pays qui se sont industrialisés en premier.
Donc ça veut dire qu'il faut donc passer à la sobriété. Enfin, en tout cas, vous, c'est votre conviction avec la création de ce laboratoire mondial de la sobriété. Vous me disiez, quand j'en parlais tout à l'heure, mais il n'y a pas de risque à la sobriété. En même temps, c'est vrai qu'on peut imaginer, par exemple, une explosion des inégalités, parce que s'il y a une obligation de sobriété pour tous, il y en a qui vont dire, mais attendez, nous, on n'a même pas eu accès à un petit peu de bien-être, et déjà, vous nous dites, terminé.
En fait, la sobriété, c'est un principe de justice sociale, et donc c'est l'équité. Donc, on n'aurait pas une explosion des inégalités, on aurait une élimination des inégalités, un rééquilibrage. La sobriété n'est pas du tout une contrainte pour les plus vulnérables, elle est plutôt une protection pour les plus vulnérables. Les seuls qui s'opposeraient à la sobriété, ce sont malheureusement qu'on entend.
Ceux qui poussent à la géo-ingénierie.
Voilà, ce sont les gens... plus vous avez de revenus, plus la sobriété va devenir une contrainte pour vous. Mais tous ceux qui sont plutôt dans une situation de précarité ou qui n'ont pas accès à la modernité, par exemple dans les pays du Sud, eh ben pour eux, la sobriété, c'est plutôt ça leur permet d'atteindre ce qu'ils ne peuvent pas atteindre dans le monde actuel. Et d'ailleurs, c'est pas du tout étonnant que pendant l'approbation du rapport du GIEC, le mot sobriété avait été supprimé du résumé pour décideurs. Et en fait, il est passé grâce à la définition, du moins, elle est passé grâce à l'intervention de la déléguée indienne. Elle avait lu ce qu'on avait fait, elle avait compris que c'était une question d'équité nord-sud et d'équité intergénérationnelle.
Et donc, ça passerait par quoi concrètement une politique de sobriété ?
Par exemple, en France, on avait la loi de zéro artificialisation des sols. Ça fait partie des politiques de sobriété. Parce que plus vous artificialisez des sols, plus vous détruisez de la biodiversité et plus vous construisez. Pourquoi est-ce qu'on artificialise ? C'est pour faire plus de routes, d'autoroutes et de construire. Malheureusement, ce qui s'est passé avec cette loi, elle n'était pas parfaite dans sa première version. Alors, à chaque fois, ils l'ont raboté. Là, le Sénat a fait voter encore une autre façon de la raboter. Maintenant, en fait, ils ont intégré tellement de dérogations dans cette loi qu'elle ne fera plus aucun effet. Ça, par exemple, c'est une loi parce qu'en fonction de l'aménagement de votre territoire, vous créez ou pas des émissions. Si vous faites un aménagement du territoire comme celui qu'on a eu en France depuis les années 50-60 avec la maison individuelle, donc vous avez besoin de voitures et donc de routes, d'autoroutes, etc., vous augmentez vos émissions pendant la période de construction, mais aussi pendant la période d'utilisation.
Donc ça veut dire qu'il faut intégrer le mot sobriété dans la gestion des politiques publiques.
Il faudrait absolument que la sobriété soit dans les politiques publiques. Aujourd'hui, il se trouve que la France est le seul pays de l'OCDE et de l'Union européenne à intégrer le mot sobriété dans sa loi de 2015 sur la transition énergétique. Seulement après, lorsque vous regardez les décrets qui ont été adoptés depuis 2015, en dehors de la loi zéro artificialisation des sols qui est une loi de sobriété, dans sa version initiale, on a plutôt fait de l'anti-sobriété. Et en dehors de ça, par exemple pour nous, les politiques environnementales et climatiques sont des politiques européennes et le mot sobriété n'apparaît dans aucun instrument de l'Union européenne.
Xavier Land, qui sont les géo-ingénieurs et tous ceux qui investissent aujourd'hui dans la géo-ingénierie ? Je pense notamment, j'ai vu que Bill Gates et Elon Musk avaient investi des millions de dollars. Est-ce que, à part eux, il y a beaucoup, beaucoup d'émulation réellement dans ce secteur ?
Je pense, en fait, pour ces questions, très certainement, Rémi sera plus à même de répondre.
D'accord.
Parce que je peux dire, je peux vous parler un peu des entreprises qui sont derrière, Climeworks, etc. Moi, ce que je connais, c'est surtout les géo-ingénieurs, les chercheurs qui travaillent dans le domaine. Juste avant de céder la parole à Rémi pour qu'il puisse compléter ma réponse, ce que je veux ajouter, des fois, on a tendance à être peut-être incharitable, manquer de charité vis-à-vis des chercheurs qui sont engagés dans la géo-ingénierie. La plupart, 95% ne sont pas des apprentis sorciers. Et quand vous les écoutez, quand vous les lisez, quand vous discutez avec eux, ils vous disent, et ça depuis 2006, avec l'article qui a poussé, un des premiers articles qui a poussé pour l'injection d'aérosols dans la stratosphère, celui de Crutzen, ils vous disent, il faut surtout pas qu'on en arrive. Pour ce qui est de la géo-ingénierie solaire, on s'entend, on ne devrait pas être dans une situation pour déployer. On devrait faire peut-être de la recherche pour pouvoir contrôler qui déploie, s'il y a un état voyou, pour comprendre ce qui pourrait se passer si jamais quelqu'un franchit le pas. Mais il faut tout faire pour éviter de déployer. Ça implique des mesures qui rejoignent la sobriété. Mais le problème, c'est que le discours qui est dominant parmi les scientifiques, c'est le suivant, c'est le politique, les gouvernements nous ont laissé avec une absence de réduction ambitieuse des émissions à gaz à effet de serre. Et au final, ils poussent derrière pour avoir des trajectoires climatiques. Il y a très certainement, on a fait l'expérience dans le GIEC, dans les travaux du GIEC, mais il y a des gouvernements qui poussent pour avoir des scénarios climatiques qui respectent, par exemple, la neutralité carbone en 2050. Mmh. Donc, quelque part aussi, je suis moi-même un chercheur à l'université. Il faut être un peu charitable vis-à-vis des chercheurs.
D'accord,
95% ne sont pas
soyons
arrivés de balancer du sulfure dans la stratosphère et de voir le résultat. Ils veulent surtout pas, ils en font des cauchemars et certains sont en dépression.
Aussi, certainement, après cette émission. Rémi Noyon, est derrière ? Qui pousse cette dynamique ?
Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas voir ces catégories comme des trucs homogènes et des motivations différentes, évidemment. Quand on regarde les financements, alors par exemple, c'est principalement des financements américains. Là, je parle vraiment de la géo-ingénierie solaire. C'est plutôt, effectivement, des grands philanthropes, vous avez cité Bill Gates, c'est le cas le plus connu, mais c'est disons les milieux qui viennent de la tech ou de la finance. Souvent on pense que c'est des intérêts pétro-gaziers qui poussent la géo-ingénierie solaire. Quand on regarde dans le détail, c'est pas tellement ça. C'est plutôt des gens qui sont proches des démocrates, qui sont proches de la Silicon Valley, plutôt d'une mentalité en fait techno-solutionniste. Et effectivement, comme le disait Xavier, c'est ce qu'on essaie de décrire dans le livre, c'est qu'en fait des choses qui étaient décrites comme des techniques d'apprentis sorciers sont en cours de entre guillemets de normalisation. Nous on regrette ça, effectivement, on l'a dit au départ, c'est le symptôme d'un échec collectif. Mais effectivement, c'est pas comme au temps de la guerre froide où on pensait qu'on allait pouvoir maîtriser finement le système Terre, etc. Donc c'est plutôt effectivement les milieux de la tech et de la finance. Pour ce qui est de la géo-ingénierie carbone, par contre, là il y a un peu d'intérêt pétro-gazier. Bon, il y a un projet très connu, le Carbon Engineering, qui est en train d'être monté au Texas. Là, il y a clairement des intérêts pétroliers derrière, où explicitement, il est dit, en fait, ce projet va nous permettre de ralentir la sortie des énergies fossiles, voire de fantasmer une espèce de circularité du carbone, où on dirait, c'est pas très grave si on extrait du pétrole et du gaz du sol, parce que de toute façon, on l'y remet. C'est un problème de gestion des déchets. Donc il y a ce fantasme aussi derrière qui pointe parfois dans la littérature.
Et le problème, Yamina Saeb, c'est qui parle à l'oreille des décideurs politiques qui doivent mettre sobriété en haut de leur plan de gestion des pays ?
Eh bien, ce sont ceux qui ont l'argent, quoi. Ceux pour qui la sobriété deviendrait une contrainte. Mais juste pour revenir sur la question du captage du carbone, et les scénarios de neutralité carbone, tous les scénarios de neutralité carbone qui visent considérés comme étant alignés avec l'accord de Paris, donc le fameux 1,5 de réchauffement à la fin du siècle, ils sont tous basés sur le captage et le stockage du carbone. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est des scénarios qui existaient avant. Et puis, quand l'accord de Paris est arrivé, quand ils ont travaillé
en
2015, donc il y a eu le rapport spécial du GIEC sur le 1,5. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis dans les formules mathématiques qu'il y a dans les modèles, si en 2050, pour faire simple, si en 2050, on a encore des émissions, ce qui est le cas, vous faites passer tout en émissions négatives. Émissions négatives, ça veut dire on capte et on met dans le sol. Et comment on fait ça ? Alors, j'ai découvert une chose. Comment on va faire ça? J'ai toujours pensé que c'était ça qu'il y avait derrière, mais je viens d'avoir la preuve pour la Suisse. Mais je vais rester d'abord en Europe. Donc, l'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne et de la France, il est basé, il faut que les gens comprennent ça, sur notre capacité future à capter et à stocker du carbone. Et là, on vient de faire un calcul et on s'est rendu compte qu'en fait, le potentiel de réduction des émissions dans l'Union des 27 pour trois secteurs seulement, le logement, la mobilité des personnes et l'industrie, est supérieur à ce qui est prévu dans les scénarios actuels pour capter et à mettre dans le sol. Mais la question, mais pourquoi alors vous ne visez pas? En fait, il y a un déséquilibre. Et pourquoi vous ne visez pas la sobriété. Et juste un dernier point, quand je vous disais, je me demandais comment est-ce qu'ils allaient faire ça, en travaillant sur les scénarios suisses, eh ben c'est écrit, ils appellent ça Energie Perspektiven, donc le futur. Et donc là-dedans, c'est écrit, les fameuses émissions, elles ne vont pas négatives, ils ne vont pas les mettre rien qu'en Suisse. Ils vont les mettre ailleurs, ils vont les externaliser. Donc les victimes, les premières victimes, parce qu'en fait, quand on met dans le sol, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça va être les pays du Sud, encore une fois.
Alors justement, comment encadrer ces risques, hein? Nous en parlons dans un instant, mais tout de suite, je vous propose le coin des Amen. On en a bien besoin, des Amen. Un titre du Guadeloupéen, JP Manova sur RFI.
On chantait Paris magique, frérot. J'ai toujours su qu'elle n'était pas. Ouais, je suis toujours dans la zig, frérot. Mais c'est dur de suivre mes pas. Faut le médicament, pas le placebo. Pour guérir ce mal qui est en nous. Cette charge qu'on a qui nous casse le dos. Pendant qu'à l'intérieur on peut faire du cachou pour un trafic, frérot. Mieux vaut laisser faire ceux qui savent. J'ai pas peur du nombre de flics, frérot. J'ai peur du nombre de poucaves. Si je ne vais plus trop vers les gens, frérot, c'est que ça demande de l'énergie. Il nous reste encore peu de temps, frérot, pour faire quelque chose de nos vies. Je sais qu'on se comprend, ma sister. Je sais qu'on vit un peu la même. Peut-être que le ciel nous aidera. On part par des coins des amens. Je sais qu'on se comprend, ma sister. Je sais qu'on vit un peu la même. Peut-être que le ciel nous aidera. On part au lieu qu'on les amène. L'histoire d'un bélier ascendant Gémeaux, passant sa vie en sous-régime. Ouais, c'est tellement dur de combattre l'ego entre l'éther et la résine. J'en vois qui sait trouver les codes, les mots pour se faire une place dans le jeu. Je m'y sens un peu comme Tyson, frérot. J'ai dit fuck you à qui je veux. Content pour toi si t'y arrives, frérot. Dans ce que t'appelles la réussite. Et pas peur que je demande un feed, frérot. C'est peut-être même moi qui t'évite. Ouais, la nature humaine est dark, c'est chaud. Que le monde est loin de me déplaire. Et même si tu vois qu'on s'appelle, frérot, il se peut qu'on ne soit jamais frère. Je sais qu'on se comprend, ma sister. Je sais qu'on vit un peu la même. Peut-être que le ciel nous aidera. On part par des coins des amens. Je sais qu'on se comprend, ma sister. Je sais qu'on vit un peu la même. Peut-être que le ciel nous aidera. On part par des coins des amens.
C'était le coin des Amen, un titre du Guadeloupéen JP Manova que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres sur la playlist de RFI disponible sur toutes les plateformes.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Géo-ingénierie ou sobriété, sur quelle stratégie faut-il miser pour l'avenir de l'humanité? Voilà ce dont nous parlons aujourd'hui dans C'est pas du vent. Sachant que, comme vous l'avez compris, nous n'aurons sans doute pas le luxe de choisir. Il va peut-être falloir tout activer en même temps, mais pas n'importe comment, car les risques géopolitiques, notamment dans un monde déjà en tension, sont énormes. Rémi Noyon, on voit beaucoup de risques géopolitiques derrière ces stratégies.
Alors c'est un des risques majeurs autour de la géo-ingénierie solaire, puisque effectivement c'est une technologie qui toucherait toute la planète. Tout à l'heure, dans l'extrait de Geostorm qu'on a entendu, il y avait une espèce de vision fantasmée où c'était les pays du monde ont réussi à s'unir pour régler le climat. Et ça, c'est une des grosses critiques qui est faite à la géo-ingénierie solaire. C'est, en gros, comment vous faites pour avoir une gouvernance inclusive où tout le monde peut se mettre d'accord? Il y a une espèce de fantasme comme ça qu'on va avoir un cénacle de scientifiques et de représentants des pays du monde qui vont pouvoir se réunir et régler finement en fait, ce voile solaire et que ça devienne non plus un problème politique, mais un problème de maintenance, donc en fait de dépolitisation. Or, on voit qu'en fait, c'est très très compliqué. Bon, on connaît le monde dans lequel on vit, mais par exemple, si vous avez un déploiement de ce voile solaire et qui a des effets sur les régions, et notamment la pluviométrie. Si par exemple en Inde, vous avez moins de mousson, une mousson moins forte, et donc des sécheresses 3 années d'affilée, et que le gouvernement indien dit, mais attendez, moi je pense que sur notre problème de sécheresse, il vient du voile solaire. Donc on voit très bien comment ça peut être une source en fait, d'amplification des conflits géopolitiques existants. Mmh. Donc effectivement, c'est un des grands enjeux de la géo-ingénierie qui vise à réfléchir une partie du rayonnement solaire.
Et voilà pourquoi, Xavier Land, vous me disiez que c'est quand même une boîte de Pandore, cette géo-ingénierie, que les gouvernements n'osent pas quand même vraiment ouvrir.
Non, oui, tout à fait, parce que... Ouvrir le débat. Alors, le débat, il faut qu'on l'ait. Et Rémi a mentionné des exigences d'inclusion. Et c'était aussi dans ce qu'a dit Yamina, c'est que la géo-ingénierie va être, c'est l'affaire de tous, parce que tout le monde peut être impacté. Le problème, c'est que si on parle de géo-ingénierie solaire, on sait que les différentes régions vont être impactées différemment. C'est-à-dire, par exemple, si vous réduisez les températures, vous injectez assez de sulfure pour réduire les températures d'un degré. Donc, pour dans l'état actuel des choses, correspond grosso modo au réchauffement climatique depuis le début de l'industrialisation. On sait que les températures globales seront réduites peut-être, espérons, d'un degré, mais les climats régionaux vont changer, en fait. Ce ne seront pas les mêmes que ceux d'il y a 2 siècles. Et il va y avoir clairement des gagnants et des perdants. Et le problème, c'est que... tous ces débats, toutes ces questions de justice sont passées un peu par pertes et profits, ou tout au moins sont glissées sous le tapis, parce qu'on a tendance à faire de la géo-ingénierie très souvent simplement un problème technique, de technologie, et pas un problème de justice sociale, de justice globale, ou de justice intergénérationnelle. Mais ce débat, juste pour conclure ma partie, là, je pense que ce débat doit être fait, doit être mené. Il doit être mené par des gens qui font la passerelle, comme les 3 qui sont dans le studio, entre les sciences dures, les sciences du climat, et un public plus large, des gens qui ont des profils en sciences humaines et sociales. Mais aussi, ça doit impliquer les chercheurs. Et pour finir, il y a une partie des chercheurs qui, en fait, poussent l'agenda de la recherche en géo-ingénierie solaire, parce qu'ils se disent « ça pourrait jouer le rôle de répulsif ». C'est-à-dire que si on amène aux politiques et on présente aux populations ce que ça impliquerait, par exemple, d'injecter du sulfure dans la stratosphère pendant des décennies, et qu'on leur montre les résultats, les gens vont commencer à prendre conscience de ce qui se passe, les gouvernements, et vont mettre, espérons, plus d'entrain pour aller dans le sens de la sobriété et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En fait, il faut démystifier le fantasme. Yamina Saeb, il est donc encore temps de miser sur la sobriété. Et vraiment, vous vous y employez jour et presque nuit, j'ai envie de dire, avec le Laboratoire mondial de la sobriété que vous avez créé. En quoi ça consiste?
Alors, ça consiste à expliquer ce qu'est la sobriété et à montrer ce que la sobriété va nous apporter. Donc, par exemple, si je prends l'Union européenne, en ce moment, on travaille sur un rapport sur la sobriété pour l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne, ça nous imposerait de revoir notre objectif de neutralité carbone pour être neutre en 2030 au lieu de 2050. Et donc, on va sortir de cette politique geste par geste. On va avoir plutôt une politique ambitieuse. Et après, ça permettrait aussi de regarder la question des inégalités plus en détail et de mettre en place des politiques d'éradication de, par exemple, la précarité énergétique. Aujourd'hui, nous avons des politiques qui ne visent pas l'éradication de la précarité. Elles visent juste l'atténuation de la précarité. Et donc, intellectuellement, on accepte que nos voisins ne puissent vivre dans le froid ou dans la faim. Mais ça, on ne doit pas l'accepter dans les pays riches, ça ne doit pas exister. Et aussi, ça va changer, ce que ça va changer extrêmement pour nous sur la question géopolitique, c'est que ça va réduire notre dépendance aux importations. Parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique telle qu'elle est conçue en Europe et dans le monde occidental, c'est en vérité une transition qui va nous faire passer de la dépendance pour nous du pétrole et du gaz vers une dépendance vers des matières premières, les minerais, etc., que nous n'avons pas.
Pour les énergies renouvelables.
Et donc, ça a un impact géopolitique. Parce que si, par exemple, on devait remplacer l'ensemble de la flotte automobile européenne par des voitures individuelles, par des voitures électriques, ben, il n'y en aurait pas assez de matière pour fabriquer. Donc, en fait, on va vers une situation géopolitique. En fait, la question climat rend la crise géopolitique que nous vivons encore plus importante, d'autant plus que ce qui va se passer derrière, c'est que parmi les risques, au lieu de parler des risques de la sobriété, moi je ne pense pas qu'il y ait des risques de la sobriété, moi je pense qu'il faut plutôt parler des risques climatiques. En fait, quels sont les risques liés au climat? Les risques qui sont liés au climat, on a vu là, il y a eu plus de 200 morts à Valence, ça c'est bien sûr que c'est beaucoup 200 morts, mais c'est rien du tout à côté du nombre de morts que l'on va avoir. On va avoir un problème d'eau et donc de nourriture, et donc il va y avoir des mouvements de population. Aujourd'hui, ils se produisent déjà, mais ils se produisent en Afrique. En fait, les mouvements de population en Afrique, entre les pays africains, ils sont très importants. On n'en parle jamais chez nous, mais on va avoir des
filles, on en parle souvent.
Voilà. Mais on va avoir des mouvements de population au niveau européen. Quand vous allez avoir une partie de la France qui va devenir invivable et que c'est des Français du Sud qui vont remonter vers le Nord, est-ce qu'on va mettre des barrières pour qu'ils ne puissent pas passer alors qu'ils sont sur leur territoire? Ou alors des Européens, est-ce qu'on va mettre des barrières pour qu'ils ne puissent pas passer? Et donc c'est vraiment une question de géopolitique. C'est la question écologique, la crise écologique, c'est une crise de la sécurité mondiale. Et c'est pour ça... Tous ces forums-là, les COP, etc., ce ne sont pas les bons forums pour discuter de ça.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ?
Eh bien, c'est une question de... Normalement, il faudrait démocratiser le Conseil de sécurité des Nations Unies et en discuter. Aujourd'hui, il se trouve que ce n'est pas démocratique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les gagnants de la Seconde Guerre qui prennent toutes les décisions. Ouais. Donc, il faudrait démocratiser ça. Et c'est là qu'on doit en discuter. Parce qu'il faut passer, il faut cesser de parler de la question climat et de la crise écologique en tonnes de carbone. Parce que tonnes de carbone, ça ne veut rien dire pour nous tous, en fait. Mais par contre, quand je vous dis que vous n'allez pas avoir à manger, ça, vous allez le comprendre. Il n'y a pas d'eau pour vous. Votre enfant, il pourra pas, il atteindra pas, enfin, l'espérance de vie de votre enfant sera réduite par rapport à la vôtre. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui vous fera bouger, quoi. Et donc, il faut changer le débat sur la question écologique.
Et il faut du courage politique.
Voilà, c'est ça, ça c'est le grand problème. Parce que la crise écologique, c'est une crise politique, en vérité. C'est une crise, il se trouve que les démocraties, elles sont plutôt dans les pays riches, mais on n'a pas connu dans l'histoire la planète où il y a un modèle, une gouvernance démocratique de la planète. On n'a pas ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et pour ça, il faut beaucoup de courage politique et c'est ça qui manque.
Voilà, c'est ça qui manque, c'est clair. Alors, on le dit souvent dans cette émission. J'espère que suite à cette émission, vous serez fait une idée, en tout cas sur la géo-ingénierie et la sobriété. Moi, de mon côté, j'ai choisi. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Merci à tous, d'avoir participé à cette émission. Rémi Noyon, je rappelle le titre du livre que vous venez de publier avec Marine de Guglielmo Weber, Le Grand Retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques. Il y a un livre à gagner, alors on va dire c'est compliqué, donc je vous pose pas de questions. Le premier qui envoie un mail à c'estpasduvent@rfi.fr a gagné le livre. Il y a aussi évidemment le Que sais-je de Xavier Land sur la géo-ingénierie. Merci beaucoup à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.